Au Congo, l'économie de tous les jours, c'est l'affaire de tous. Chaque samedi à 12h30 heure de Kinshasa, Radio Okapi vous propose le panorama économique. C'est le résumé de l'actualité de la semaine. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'équilibre du monde rural, les bonnes initiatives, une nouvelle tendance. Reportage sur le Congo qui bouge dans toutes les provinces. Le samedi de 12h30 à 13h, 30 minutes pour explorer le panorama économique de la RDC.
Chaque année, les universités et instituts supérieurs déversent des milliers de diplômés sur le marché. Bon nombre d'entre eux se retrouvent après au chômage parce qu'il n'y a pas d'emploi. Et certains jeunes gens se lancent dans d'autres activités qui n'ont rien à voir avec les filières de formation qu'ils ont suivies. Vous les allez les retrouver au coin des rues avec les cabines téléphoniques où ils font autre chose. D'autres souhaitent carrément quitter le pays pour aller en Europe à la recherche des meilleures conditions de vie parce qu'ils en ont marre de rester comme ça sans travailler. Alors, quelle est la solution face au chômage en masse des jeunes gens après les études qui se retrouvent au chômage parce qu'il n'y a pas assez d'opportunités? Qu'est-ce qu'il faut faire? Docteur Yves-Damien Gavane est expert en ressources humaines. Avec lui, nous allons en parler des questions et préoccupations. Appelez au 081-890-63-94. Alors, première question, docteur Yves. Quand on parle des chômages et des masses, qu'est-ce que cela veut dire?
Ok, merci beaucoup. Je commence par présenter mes vœux, le meilleur, à tous les auditeurs, parce que c'est la toute première intervention
de l'année 2017.
Mm-hmm. Je suis très heureux de vous retrouver jeudi.
Merci.
Je dis merci. Bien, il faut d'abord d'entrée déjà dire que la question du chômage, de manière globale, c'est vraiment un sérieux problème et un problème qui touche aujourd'hui une grande partie de notre population et notamment les jeunes. Mmh. Et quand on parle du chômage, il faut dire d'abord que c'est un état d'inactivité, un état d'absence d'employabilité dans un état. Un État qui se décide tout simplement de ne pas mettre ses propres enfants au travail et il les garde à la maison. Donc le chômage de masse, c'est lorsque nous atteignons un seuil anormalement élevé, dont par exemple le nôtre, où aujourd'hui plus de 80% de notre jeunesse ou de la population se retrouve au chômage inutilement. Donc le chômage de masse, c'est cet état d'inactivité, cet état de manque d'employabilité de personnes à l'âge de travailler, de personnes actives aller au travail. Donc voilà, de manière assez ramassée, la petite définition qu'on peut donner au chômage.
Et quelles sont les raisons qui font que beaucoup de jeunes gens après leurs études se retrouvent au chômage?
Faut dire que le chômage de masse, surtout en RDC, aujourd'hui est un problème systémique. Au fait, c'est un problème complexe qui touche tous les secteurs. Et pour ça, je pense que pour les résoudre, il faudra plutôt une approche, comme on dit, éthiopathogénique que symptomatique. C'est-à-dire quoi? Nous devons aller aux causes de cet état de chômage. Et là, je propose 5 étapes essentiellement pour qu'on arrive aujourd'hui à résorber ou à résoudre la question du chômage de masse à République démocratique du Congo.
Et parmi les causes, souvent, on incrimine le système éducatif.
Oui, le système éducatif est parmi les causes. Mais moi, je vais commencer par la première de causes, c'est le non-respect de l'article 36 de notre Constitution.
Qui dit quoi exactement?
Qui dit, dans la linéa premier, le travail est un droit et un devoir sacré pour tout citoyen. Et l'État devait mettre en place des mécanismes pour empêcher les personnes à être au chômage. Donc, l'article 36 de notre Constitution est clair que le travail est un droit et en même temps un devoir sacré pour tout citoyen. Mais malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens pensent qu'il n'y a que l'article 220, il y a l'article 70, il y a l'article 64, l'article ceci, mais nous avons tout un article qui parle de l'emploi, mais personne aujourd'hui tient compte de cet article. Mmh. Donc nous sommes dans un état où les gens facilement se mobilisent pour le match. Quand on gagne, on tombe sur la rue, mais on n'a pas le courage de se mobiliser pour obtenir le respect de cet article 36, que je trouve que c'est la clé même pour débloquer la question du chômage en République démocratique du Congo. Donc tout doit commencer par le respect
de cet article qui stipule que le travail est un droit.
Un droit et un devoir pour tout citoyen, et c'est à l'État de mettre en place des conditions nécessaires pour donner du travail à ses fils. Donc aujourd'hui, je pense que c'est ça la première raison, et nous souhaitons qu'il y ait une mobilisation autour de la question de l'article 36. D'ailleurs, j'annonce qu'avec le collectif aujourd'hui, la dynamique Congo Positif, nous travaillons essentiellement sur cette question pour obtenir un dialogue social autour des questions de l'emploi en respect de l'article 36 de notre Constitution. La deuxième raison qui fait que nous ayons le chômage de masse, il faut noter, c'est le mauvais choix de modèle économique au pays. Nous avons une économie totalement extravertie, et cette économie est fortement dollarisée comme une conséquence de cette extraversion. C'est-à-dire quoi? Un pays qui importe de la nourriture pour sa population est en train d'effectuer un génocide professionnel contre l'emploi. Imaginez-vous, tout ce que nous mangeons, en grande partie, ça nous vient de l'extérieur. Les riz viennent de Pakistan ou de Thaïlande, le Thompson doit venir de Namibie, le pâte d'arachide doit venir de Tanzanie et des autres pays, de la Zambie.
On importe donc, presque tout.
Nous importons presque tout. Et ce sont de biens de consommation de masse, j'ai dit. Alors, imaginez-vous, lorsque nous achetons un verre de riz, c'est-à-dire nous payons un travailleur qui est au Pakistan ou en Thaïlande, parce que c'est lui qui l'a produit. Quand nous achetons un Thompson, nous payons un travailleur qui en a mis, en même temps nous condamnons un Congolais à être au chômage, parce que si on avait de bateaux de pêche ici, si on avait des entreprises, des industries qui pouvaient produire des riz ici, on donnerait du travail aux Congolais. Donc, notre modèle économique aujourd'hui accepté par le gouvernement, c'est de vouloir mettre les Congolais à la maison en train d'attendre que les autres produisent dans d'autres pays et que nous allons seulement juste consommer, avec toutes les conséquences aujourd'hui, des conservations de ces produits, des traitements de ces produits, nous ne savons pas, on a beaucoup de maladies aujourd'hui parce que le contrôle, même la qualité des aliments importés pose problème. Donc, l'importation aujourd'hui, c'est une
favorise le chômage.
Des chômages de masse. Aussi
dans notre pays.
Voilà. Aussi longtemps que nous allons importer le denrée alimentaire, alors que nous avons le sol qui est fertile, nous avons des cours d'eau, ça constitue un génocide contre les emplois des masses. Donc
la troisième raison,
et nous disons que
les chômages de masse.
Oui, voilà. Et pour la question de l'importation, voulais-je dire, au niveau du collectif Parti École Congo Positif, nous, qu'est-ce qu'on dit? Qui veut la paix crée des emplois. Parce que aujourd'hui, si on veut vraiment qu'il y ait de la paix, je pense qu'il faut commencer par créer des emplois. Troisième raison, c'est un désordre organisationnel dans le secteur de l'emploi, et ce désordre est en grande partie occasionné par l'ONEM, l'Office National de l'Emploi. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous n'avons même pas une vision réaliste sur la question des chômages dans notre pays.
Mais l'ONEM enregistre les chômeurs et leur attribue des cartes, et quand il y a des offres, l'ONEM les met au courant.
Ils s'arrêtent là. Ils les mettent au courant où ils affichent. Vous savez que l'ONEM n'a même pas un site internet à l'ère des numériques aujourd'hui. Et c'est très grave, alors que la plupart des jeunes sont dans les réseaux sociaux, mais l'ONEM se permet de ne pas avoir un site internet. Donc, vous allez là où ils affichent, et c'est dans quelles conditions qu'ils affichent. Donc, moi, j'en sais quelque chose. Aujourd'hui, l'ONEM ne peut pas nous démontrer qu'il a un répertoire national, actualisé, numérisé, de tous les chômeurs en RDC, secteur par secteur. Ça n'existe pas. L'ONEM peut nous prouver qu'il a un cadre référentiel et prévisionnel des emplois. D'ici 2021, combien d'emplois on va créer secteur par secteur, parce que c'est un outil technique du gouvernement, ça n'existe pas. Donc, c'est cette sorte de cacophonie, ces désordres organisationnels occasionnés par l'ONEM et les autres programmes qui travaillent dans les secteurs de l'emploi doit être rapidement corrigé à une sorte de centrale d'emploi où on peut mettre toutes ces informations. Donc, La quatrième raison, c'est ce que tu as évoqué tout à l'heure, c'est la défaillance de notre système éducatif, qui aujourd'hui s'illustre par une sorte d'inadéquation entre formation et emploi. Aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi nous allons à l'école. Parce que avoir un diplôme universitaire ou pas aujourd'hui, vous n'avez aucune chance de travailler. parce que les diplômes deviennent comme des trophées et on va à l'université juste accumuler des théories et rentrer à la maison. Donc il n'y a pas un lien, il n'y a pas une passerelle aujourd'hui qui peut conduire un étudiant qui finit vers la profession. Donc aujourd'hui, je pense que si on doit continuer avec ce système éducationnel dans sa formule actuelle, on fera 100 ans sans bouger d'un pas. Et
donc on va continuer à produire des chômeurs chaque année.
Effectivement, c'est une grande machine, c'est une industrie aujourd'hui de production des chômeurs.
Des chômeurs.
Notre système éducatif.
Alors qu'est-ce qu'il faut faire, Yves Daniel, aujourd'hui pour faire face au chômage des masses en République démocratique du Congo? Avant de répondre à cette question, nous allons accueillir Patrick Betou de Kinshasa. Vous voulez également participer, appeler au 081 890 63 94.
Capissoir vous propose du lundi au vendredi à partir de 16h, heure de Kinshasa, la chronique développement durable et environnement, les offres d'emploi. Retrouvez à partir de 17h sur la radio de la paix, les journaux en français, Swahili, Chiluba, Kikongo et Lingala. Synthèse de l'actualité africaine et internationale, économie, paroles d'enfants, rencontres avec les Congolais de l'étranger et les infos sport toutes les demi-heures. De 16h à 19h, bienvenue dans Okapi Soir.
Comment faire face au chômage des masses en République démocratique du Congo? Docteur Yves-Daniel Gavane, expert en ressources humaines, et l'invité d'Okapi Service, Patrick Betou. Vous êtes à Kinshasa. Bonjour et quelle est votre préoccupation?
Bonjour, je vous dis bonjour à notre invité Yves-Daniel Gavane.
Bonjour.
Je suis de M. Patrick Betou. Je suis étudiant en deuxième licence en psychologie sociale à l'UNICIN.
Oui.
En fait, on a du mal vraiment à trouver de l'emploi après les études universitaires. Alors j'avais une préoccupation à poser à l'invité. Est-ce que l'ONEM est vraiment à la base du taux de chômage dans notre pays? Parce que on ne voit pas le rôle que joue l'ONEM. Donc c'est ça que j'avais demandé à l'invité. Merci beaucoup, c'est Patrick Deschou.
Bien, Jacques, vous êtes à Idiofa. Bonjour, quelle est votre question?
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à notre invité qui est au plateau là. J'ai bien suivi tout à l'heure. Il a parlé des cinq causes. C'est tout à fait normal. Mais alors, nous sommes en train de dire que nous sommes distraits. D'abord, il y a la distraction parce qu'il existe 80 millions de terres arables que nous ne savons rien faire. Si nous remontons vers l'histoire, l'histoire nous renseigne que toutes les grandes villes de notre pays, la RD Congo, ont été construites avec les revenus des productions agricoles. Des expatriés qui sont venus pour la première fois au Congo se sont investis dans les secteurs agricoles, mais leur hygiène dans le milieu rural. Mais qu'est-ce qui se passe pendant la deuxième République? C'était urbanisé. Et ça a entraîné comme conséquence l'exode rural. Il y a eu l'afflux de tout le monde vers des grandes villes. Alors tout le monde rejeté maintenant dans le chômage domaine actuellement en train de décrier.
Oui, quelle est maintenant votre question, Jacques?
Oui, ma préoccupation, même pour la contribution, c'est pour dire que le chômage est un problème réel et actuellement tout le monde veut se converger vers la politique, vers la création des églises. Mais nous pouvons dire qu'avec autant de jeunes qui sont qui terminent chaque année, l'État doit encourager les initiatives privées. Il existe la naissance des organisations paysannes qui peuvent relever les défis sociaux, économiques et culturels. Donc les jeunes qui terminent peuvent projeter leur regard vers l'arrière-pays. Mais il existe aussi un problème, une contrainte. Dans les églises doivent cesser avec leur message de faire peur aux jeunes que dans le milieu rural existe des sorciers dans le village. Alors l'État, dans son rôle régalien, peut aussi accompagner les initiatives tout en ouvrant la brèche, tout en facilitant l'accès au crédit pour que les jeunes puissent rentrer et quand ils ont du crédit, ils peuvent rapidement créer les emplois dans le milieu rural. Mmh. Et cela fera que les jeunes puissent quitter à la ville là où tourne le pouce pour ne rien faire et se livrer dans d'autres activités et rentrer vers le village là où ils peuvent créer les emplois et donner un plus pour l'économie de notre pays.
Merci. Voilà un peu. Mmh. Merci Jacques depuis Diofa. Omer, vous êtes à Arou, nous parlons du chômage de masse. Quelle est votre question?
Oh, merci, bonjour. D'abord, monsieur le journaliste, monsieur l'invité.
Bonjour Omer, quelle est votre question par rapport à ce thème?
Monsieur le journaliste, ce sujet cadre avec l'actualité. Vous tous, vous savez avec moi que pour trouver l'emploi maintenant au Congo, il faut peut-être avoir un membre de la famille politicien, soit intégrer un parti politique influent, soit encore avoir un ami de bas de l'étude lorsque vous aviez étudié. Maintenant, je voudrais demander, monsieur l'invité, pour savoir si, par exemple, un étudiant qui venait de terminer ses études, il a épuisé tous ses moyens pour payer les études, il n'a pas maintenant de moyens. Bon, je voudrais lui demander si, comment il peut décoller pour créer, par exemple, une activité pour essayer de venir à ses besoins. C'est tout comme ma question.
Merci Omer, depuis Arou, Yves-Daniel Gavin, vous avez suivi, Patrick Bétour revient sur l'ONEM, il dit, il veut savoir quel est le rôle de l'ONEM par rapport pour faire face au chômage de masse.
Ah, ok, vous savez avec moi, je pense que je suis très mal placé pour parler de l'ONEM, parce que à mon humble avis, c'est aujourd'hui le plus grand malheur de jeunes congolais, les chômeurs, c'est d'avoir des structures telles que l'ONEM,
l'Office national de l'emploi,
voilà, qui souffre d'une espèce de manque de leadership et puis d'efficacité organisationnelle et performance. L'ONEM, son rôle, c'est comme organe technique, c'est de conseiller les gouvernements en matière de l'emploi. Mais aussi longtemps que nous avons un taux de chômage qui dépasse l'entendement, je me dis pourquoi l'ONEM doit continuer à exister dans sa formule.
Alors
actuelle.
D'après vous, qu'est-ce que devait faire l'ONEM face au chômage de masse aujourd'hui?
Mais l'ONEM n'organise rien à part donner les cartes jaunes. Vous avez déjà vu même un colloque organisé par l'ONEM pour discuter sur les questions de l'emploi. L'ONEM n'a pas de site internet. L'ONEM aujourd'hui ne communique pas assez. Vous avez entendu, il y a des gens, un étudiant, un finaliste qui ne connaît même pas les rôles de l'ONEM. Mais l'ONEM est en train de faire quoi? Et ils ont des moyens, ils ont des cotisations patronales chaque mois. Qu'est-ce qu'ils font réellement l'ONEM? Parce que si vous passez le micro en route, vous posez même la question aux étudiants, ils ne connaissent pas l'ONEM, l'Office national de l'emploi. Alors que c'est la première structure qui devait accueillir de jeunes quand ils quittent l'université, pour leur montrer qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver l'emploi et conseiller les gouvernements sur des opportunités d'emploi et guider l'action du gouvernement techniquement en créant, en produisant ce qu'on appelle le cadre prévisionnel et référentiel des emplois secteur par secteur. Donc l'ONEM, à mon humble avis, doit être transformé et c'est la raison pour laquelle j'étais en train de...
On doit être redynamisé, hein,
voilà,
si on peut le dire ainsi. Donc, alors Jacques, depuis Idiofa, nous dit qu'il faut encourager les initiatives privées. Donc il veut parler de l'entrepreneuriat, que les jeunes rentrent au village parce qu'on a des terres arables, ils peuvent aller travailler la terre.
Effectivement, je dis, vous savez, on parle de chômage de masse. Pour résoudre le problème de chômage de masse, ce n'est pas un individu qui pourra mettre fin au chômage de masse. Quand on parle de chômage de masse, c'est la question d'abord du gouvernement. Le rôle d'un gouvernement dans un pays, ce n'est pas de distribuer des postes ministériels, mais c'est d'abord de s'occuper de problèmes cruciaux de la société. On ne doit pas avoir des thèmes, des slogans, c'est le social, qu'on n'a jamais donné un contenu au social, qu'on dit non, on veut améliorer le social. C'est pourquoi nous disons qu'il faut un vrai dialogue social autour des questions de l'emploi avec le respect de l'article 36 de notre Constitution. Pourquoi on ne veut pas respecter l'article 36? Mais on se bat pour les autres articles, alors que c'est ça qui mettra fin au chômage et l'État est conscient. C'est inscrit dans la Constitution, l'article 36, que le travail est un devoir, est un droit. Mais
faut-il convoquer les états généraux de l'emploi?
Il faut un dialogue social.
Autour de cette question.
Oui. Alors, j'encourage l'auto-emploi. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, je peux annoncer que dans le cadre du forum pour l'entrepreneuriat et l'emploi en RDC, nous avons eu une première édition à Bandunduville, à Kisangani. La deuxième édition, ça sera à Bandunduville du 20 au 25 mars 2017, où nous allons travailler avec une structure locale, un centre d'appui au renforcement de capacité qui se trouve à Bandunduville. Le thème, c'est juste l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, nous voulons inciter la jeunesse de Bandunduville à la question de l'auto-emploi et nous travaillons suffisamment là-dessus. Mais pour qu'on arrive à résoudre la question du chômage de masse, la première des choses, c'est qu'il faut une conscience collective au niveau des citoyens congolais. Nous devons laisser de nous mobiliser autour des questions inutiles des loisirs, alors qu'il y a des grandes questions aujourd'hui, dans la question du chômage, qui doit nous interpeller parce que chaque famille au Congo aujourd'hui a au moins un chômeur. Et nous devons nous mobiliser pour arriver à avoir des solutions. Les citoyens doivent se mobiliser pour qu'on arrive à trouver des solutions.
Il faut prendre conscience du problème.
Voilà. Au lieu d'attendre des fausses rumeurs que non, l'équipe a été qualifiée et tout le monde aimait à danser.
mais c'était terrible.
Alors que nous sommes au chômage, personne ne peut prendre ces mêmes enthousiasmes pour se battre pour qu'on trouve des solutions. Deuxième chose, c'est ce que je dis, c'est la mobilisation autour de l'article 36 de notre constitution. Et nous, on a pris l'option de vulgariser cet article pour que les gens comprennent que le travail est un droit et un devoir et s'inscrit dans notre constitution. De la même manière que les politiciens se sont battus pour faire vulgariser l'article 220, nous, on va se battre en cette année pour faire vulgariser l'article 36. Mais aussi, il faut dire que si on veut résoudre la question de chômage de masse, on doit arrêter avec les importations de biens de consommation, de grande consommation. Les Thompson, les riz, nous pouvons produire les riz.
Mais il y avait un programme consommant local. C'était pour encourager la production.
Ce sont des slogans. Même Made in Congo, on a appris un moment, il y avait Made in Congo, avec quel résultat? Quand on veut tout politiser, c'est là où on arrive à des résultats catastrophiques. Moi, je pense qu'il y a des questions qui sont purement techniques, qu'il ne faut même pas politiser. Aujourd'hui, nous importons le riz alors qu'à Lodja, à Bumba, ici à Kingabo, on peut produire du riz. Nous avons, il y a une étude de PNUD qui démontre que 70 millions de poissons meurent chaque année en RDC de vieillesse dans nos rivières. Mais nous continuons à importer les Thompson venant de la Namibie qui sont conservés dans les conditions que vous connaissez. Donc, aussi longtemps que nous allons manger le travail des autres, nous sommes condamnés à rester à la maison.
Avant d'arrêter l'importation, commencez d'abord par produire au niveau local.
Mais effectivement,
il faut qu'il y ait de l'entrepreneuriat, qu'il y ait des initiatives privées.
Nous disons ceci. Avec le même argent qu'on va acheter les riz à Pakistan, ces mêmes argent, on peut investir ça au Congo ici et créer des emplois. Nous ne demandons pas des solutions miracles. Nous disons que des gens qui importent les Thompson de Namibie, qu'ils achètent des bateaux de pêche avec le même somme d'argent, qu'ils les mettent au niveau du fleuve Congo et créer des emplois pour les Congolais. Donc, vous savez que le gouvernement pour l'année 2016 a dépensé plus de 250 millions, ça c'est le communiqué de la Banque centrale, pour l'importation. Mais cet argent, on pouvait réinvestir ça localement et créer des emplois.
Donc, on va accueillir trois auditeurs. Joël Zaki Sademagi, Papi Ibaka et de Bukungu, et Joël et Gaël de Lubumbashi. Joël Zaki, bonjour. Quelle est votre question?
Bonjour à notre invité, bonjour à vous aussi.
Oui, Joël, quelle est votre question?
Okay. Avant de pouvoir poser la question, j'ai un commentaire à faire. Vraiment, moi, je vois au Congo, si je fais un peu de tour dans les différents services, je trouve rien que les vieux et les vieillards qui travaillent. Là, c'est de un. Maintenant, de deux, quand je fais aussi autrefois des tours dans les différents services au Congo. Donc, vous allez trouver seulement, il y a une personne licenciée dans une famille qui va maintenant aligner tous les illettrés de sa famille. Donc, tout le monde de sa famille travaille dans la ville. Il y a seulement des personnes qui ont étudié, qui n'ont pas étudié. Tout le monde va travailler. Et comme au Congo, dans les différents bureaux, presque, on ne parle pas rien qui est français. Alors, il faut parler toute langue possible. Donc, quand vous faites un peu de tour, vous allez trouver vraiment des personnes qui ont étudié, qui n'ont pas étudié. Mais, qui sont tellement venus de la famille, d'un seul licencié qui est engagé au sein de ces bureaux, de ces services. Donc, toute sa famille va travailler. Et de trois. Si vous pouvez faire aussi autrefois des tours au Congo, vous allez trouver qu'il y a beaucoup trop d'étrangers qui viennent travailler au Congo. Or, pour les Congolais, vraiment, nous sommes des personnes qui savent quand même des choses. Nous savons bien, nous savons écrire, nous savons lire, nous savons vraiment bien faire des choses. Mais moi, je regrette vraiment quel est vraiment le rôle de ces services de l'emploi à Congo. Vraiment, moi, je demande à ceux qui font service, moi, de regarder les choses vraiment constatativement, vraiment à bras les cours.
D'accord. Merci, Joël.
C'est la jeunesse.
D'accord.
Non, je n'ai pas encore terminé. Pardon.
Allez-y rapidement, parce que les autres attendent. Hein.
Oui. On dit que c'est la jeunesse qui est l'espoir de demain. Maintenant, dans cet état de chômage, on ne sait comment. Et puis encore, sinon, on saura partout qu'il y a tout le monde est devenu rebelle parce qu'il n'y a pas le travail. Maintenant, ma question, vraiment, qu'est-ce que les jeunes congolais, qu'est-ce que la jeunesse congolaise doit faire pour quand même neutraliser cette pratique des chômage? Parce que on s'est déjà marre. Nous en avons vraiment assez. Sinon, vraiment, cela prend que dans tous les Congos, il y a tellement de. Il n'y a rien qui est tellement de. Parce que,
d'accord, donc, vraiment, d'accord. Donc, vous dites, vraiment... qu'est-ce que la jeunesse doit faire pour neutraliser le chômage? Papi Baka, vous êtes à Bukungu, hein, dans la province, dans le Tchopa. Quelle est votre question? Bonjour.
Oui, bonjour d'abord, monsieur le journaliste. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, papi.
Oui, ma préoccupation est celle-ci. Là, l'invité nous montre clairement que c'est l'État qui a l'obligation de créer l'emploi pour ses citoyens. Dommage, monsieur le journaliste, il se pose un sérieux problème chez nous, au Congo, c'est-à-dire le non-respect des textes légaux par les gouvernés. D'ailleurs, monsieur le journaliste, la Constitution elle-même, avec ces articles clés, n'est pas respectée.
Alors, Papi Baka, quelle est la situation... Papi Baka, quelle est la situation dans la province de la Tchopa? Qu'est-ce que les jeunes font par rapport à... Est-ce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage aujourd'hui? Est-ce qu'ils se sont lancés dans l'entrepreneuriat?
Monsieur le journaliste, la jeunesse est oubliée à leur triste sort. Moi qui vous confirme. Donc, les emplois qui sont dans presque beaucoup de structures, il n'y a que ces vieillards comme mon prédécesseur venait d'invoquer. Il y a des vieillards qui continuent encore à œuvrer. Et il y a les numéros matricules, autrement appelés NP, qui ne sont pas payés pour que ces jeunes essayent un peu de rattraper leurs emplois et consorts. Donc, nous avons un sérieux problème chez nous. Donc, les textes légaux ne sont pas respectés.
Alors, quelle est la question? Quelle est la question?
Oui. Pour essayer de délarguer tous ces vieillards qui ont beaucoup travaillé. Et jusqu'à maintenant, rien ne se fait.
Alors, voilà, quelle est la question
que vous conviez avec moi, oui, que les textes légaux ne sont pas respectés.
Oui, il y a dans l'administration des personnes qui ont pris de l'âge, qui travaillent encore alors qu'elles devaient aller en retraite. Alors, quelle est la question, papy, que vous adressez à l'invité Yves Daniel?
Oui, moi, j'adresse à l'invité, donc, à leur charge.
D'accord, d'accord.
Qu'ils viennent le matin se réveiller à l'OCAP, venir invoquer n'importe quelle thématique. C'est à eux de plaidoyer à l'État, que l'État soit à mesure de créer les emplois pour cette jeunesse qui est abandonnée à leur triste sort.
Merci, papy. Gaël de Lumbashi, bonjour, et quelle est votre préoccupation?
Oui, bonjour aujourd'hui, bonjour à M. Yves Daniel.
Bonjour.
Ouais, moi je dirais, face au problème de chômage, qu'il y a des jeunes qui ont décidé de se prendre en charge, mais il y a des jeunes qui ont vraiment de bonnes idées, mais ils sont pas encouragés. Et il y a des personnes pour faire parvenir votre projet chez la bonne personne qui peut vous financer, mais cette personne-là vous demande d'abord la commission. Moi, je dirais que la RDC n'est pas une terre d'opportunités, parce que dans d'autres cieux, il y a c'est là qu'on appelle les business angels. Ce sont des gens qui sont là pour financer des bonnes idées, mais en RDC, il n'y en a même pas. Alors, c'est pourquoi c'est devenu compliqué pour s'en sortir ici en RDC. C'est ce que j'avais comme contribution.
Merci. Yves-Daniel Gavane.
Oui, je commence par notre ami de Magui, Joël. Qui a dit que les jeunes est l'espoir de demain. C'est une affirmation que moi je ne crois pas du tout, parce que demain n'existe pas. On ne peut pas renvoyer toute une génération à demain.
L'avenir commence aujourd'hui.
Quand on dit jeunes, avenir, espoir de demain, il faut, et aujourd'hui ils font quoi? Il faut d'abord que ces jeunes soient responsabilisés aujourd'hui. Il faut que ces jeunes travaillent aujourd'hui pour préparer ce fameux demain. S'ils sont au chômage, ils peuvent même pas être espoir de demain. Donc on doit déjà changer la mentalité, la manière de comprendre des choses. Moi je veux qu'aujourd'hui la question de l'emploi puisse avoir la mobilisation comme lorsque nous gagnons un match de football en RDC. Il faudrait que toutes les familles congolaises aujourd'hui puisse se mobiliser, prendre conscience que nous devons travailler pour créer des emplois. Aider l'État, inciter l'État, le gouvernement à créer des conditions favorables de création d'emplois et d'opportunités. Notre ami a dit qu'il n'y a pas d'opportunités. Effectivement, aujourd'hui, pour qu'un jeune puisse avoir des crédits dans une de banque, mais c'est tout un problème. Mais l'État peut résoudre cette question en travaillant avec le banque, en créant même de fonds qui peuvent aider les jeunes à accéder au financement de leurs projets. Les jeunes congolais ont plein d'initiatives, mais les jeunes congolais ne sont pas encadrés en termes de formation et ils ne sont pas accompagnés dans l'atteinte de leurs projets. Ça, nous le savons. Et tout ça, ça entre en ligne de compte du non-respect de l'article 36 de la Constitution qui consacre le travail comme un droit et un devoir. Mais les amis ont parlé de vieillards. Moi, je pense que la vieillesse...
Les personnes qui ont pris de l'âge. Voilà. Si on
veut. Quand on est né, si on ne meurt pas en cours de chemin, on finira par être vieux. Mmh. Et ces vieux qu'ils acquisent aujourd'hui, ils ont rendu des loyaux services à cette République qui est par moments ingrat.
Donc, qui ne sait pas les envoyer en retraite dignement.
Voilà. Donc aujourd'hui, au lieu de taxer les vieillards, de chercher un conflit de génération, il faut réfléchir sur une politique efficace en matière de retraite dans notre pays. Ces vieux doivent aller se reposer parce qu'ils ont travaillé et laisser la place à la jeunesse, mais on ne doit pas les jeter dans la rue parce que ce sont des gens déjà avec des arriérés, des salaires qui ne sont pas bien payés. Quand vous leur demandez d'aller en retraite, c'est envoyer tout
rapidement à la mort. Oui.
Et nous, si on le fait aujourd'hui, à ces vieux, on le fera pour nous demain. Donc, nous devons être conséquents. On doit réfléchir aujourd'hui sur des bonnes politiques en termes de retraite. Bon, vous savez qu'aujourd'hui, il y a une étude qui démontre que un travailleur au Congo supporte plus ou moins 20 personnes. Donc, quand tu travailles, tu as plus ou moins 20 personnes qui dépendent de toi. C'est énorme. Mmh. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la pauvreté a atteint un paroxysme. Aujourd'hui, c'est terrible. Et le malheur, c'est que lorsqu'on souffre, on doit se plaindre, on doit se poser les questions, mais les Congolais s'habituent au mal. Les Congolais, pour dire, bon, ça va, nous sommes déjà habitués au mal, mais on ne peut pas s'habituer à la misère. On ne peut pas s'habituer au mal.
On doit donc se battre pour sortir de cette situation. Et cela commence par la prise de conscience.
La prise de conscience collective.
Voilà. Et puis, la mobilisation autour de l'article 36 qui stipule que le travail est un droit.
Et un devoir.
Et un devoir.
Pour tous les citoyens.
Vous avez dit qu'il faut arrêter l'importation de tous ces produits.
Arrêter les importations. De grandes consommations de masse. Et que nous pouvons localement produire ici sans problème.
Mais par rapport à l'entrepreneuriat, l'auto-emploi favorisé.
Par rapport à l'auto-emploi, oui. Il faut agir à des niveaux. Premièrement, il faut aujourd'hui que la politique nationale en matière de l'emploi soit respectée, qu'on puisse avoir une bonne politique. Parce que nous trouvons même des jeunes qui travaillent chez les Indiens, les Libanais et autres, sans contrat du travail et dans des conditions de précarité énormes alors que nous avons l'inspection du travail. Je me dis, mais dans ces pays, apparemment, nous avons toutes les structures, mais qui refusent de travailler malheureusement. Comment imaginez-vous un jeune qui travaille chez un Libanais pendant une année, il n'a pas de contrat du travail, il est mal payé, il est malmené dans son propre pays. Mais c'est inacceptable. Donc, il y a un sérieux désordre dans le secteur de l'emploi. Je pense qu'un dialogue social sur la question de l'emploi, en respectant l'article 36, nous interpelle tous. Mais pour l'entrepreneuriat, comme tu l'as dit, nous, à notre niveau, DRC Business School, nous avons mis en place cette plateforme que nous appelons Forum, le Forum pour l'entrepreneuriat et l'emploi. La première édition a eu lieu à Kisangani à l'année passée. Cette année, nous serons à Bandunduville, du 20 au 25 mars, et nous invitons tous les cadres de Bandunduville, les opérateurs économiques et tous les autres de se joindre à nous pour que nous allons discuter avec la jeunesse qui se trouve à l'intérieur du pays sur des questions de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Parce que nous avons compris que les jeunes qui sont à l'intérieur du pays ont des idées, mais ils sont par moments limités. Et nous voulons échanger avec ces jeunes parce que la conséquence aujourd'hui, c'est que
mais il n'y a pas que pourquoi seulement Bandundu, parce que les jeunes gens à travers tout le pays ont besoin. Mais
nous étions à Kisangani.
Ont besoin de ça.
Nous étions à Kisangani l'année passée. Cette année, nous allons à Bandunduville. Il faut dire que notre souhait, c'est d'aller dans toutes les provinces au même moment, si on peut avoir les moyens. Mais nous sommes
limités. Pour parler de l'entrepreneuriat.
Nous sommes limités par les moyens et nous faisons avec les moyens qui est nôtre. Donc, aujourd'hui, je pense que cette question, nous, en tant qu'experts, nous les prenons très au sérieux et nous invitons surtout le gouvernement.
Mais vous confirmez que l'auto-emploi ou l'entrepreneuriat est une solution face au chômage de masse?
Pas face au chômage de masse. Le chômage de masse, c'est l'apanage du gouvernement qui doit mettre en place de politiques, de mécanismes pour inciter le partenaire et tout le monde à pouvoir s'impliquer dans la création des emplois. Mais L'emploi, le chômage individuel, oui, je pense que nous devons, si nous voulons avoir une forte économie, nous devons mettre en place des politiques qui encouragent l'entrepreneuriat. Pas seulement les politiques, même notre éducation. Mmh. Aujourd'hui, au lieu de bourrer aux élèves des théories inutilement à l'école,
les apprendre comment créer leur entreprise.
Voilà, il faut axer l'enseignement aujourd'hui vers la création d'entreprises parce que nous avons des richesses, nous avons plutôt des ressources naturelles incommensurables. Si seulement on peut enseigner aux jeunes, déjà à l'école primaire, aux humanités, à l'université, la création d'emplois, en laissant d'autres théories qui nous amène qu'au chômage, je crois que ça va donner un déclic.
Nous avons aujourd'hui le guichet unique des créations d'entreprises. Dans trois jours, vous pouvez créer votre propre établissement.
Oui, ça c'est déjà un pas considérable. Mmh. Mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Il suffit pas de faire agréer un statut pour commencer une entreprise.
Et il faut des financements.
Il faut beaucoup de choses.
On va accueillir trois auditeurs. Déo Gracias de Kinshasa, Gaylord de Kin et l'ingénieur Anania également à Kinshasa. Déo Gracias, bonjour et quelle est votre question?
Oui, bonjour. Je tiens d'abord à féliciter l'invité. Oui, moi c'est Déo Gracias, j'avais depuis Kinshasa. J'avais au moins 4 ou 5 préoccupations.
C'est beaucoup. Allez-y rapidement.
Ok. Pour la première préoccupation, je voudrais juste répondre à l'auditeur en ce qui concerne l'ONEM. Moi, je fais partie des candidats qui ont été sélectionnés par l'ONEM. Parce qu'il parlait de l'ONEM par rapport. Bien sûr, il a pratiquement raison, mais ce que l'ONEM est en train de faire est encore, encore moins par rapport au nombre de la population. Mais au moins, moi, j'ai été informé qu'il fallait aller retirer une carte à l'ONEM. J'avais retiré et après un certain moment, on m'a appelé. J'ai passé les tests à l'ONEM et j'ai été sélectionné et je passe mon stage professionnel à PICA. Ce que nous demandons, c'est qu'après avoir passé le stage professionnel, l'ONEM pourra faire de nous. C'est peut-être ça ce que nous demandons. Parce que ces entreprises-là, c'est
Oui, allez-y rapidement, passez rapidement aux questions parce que les autres attendent. Deuxième question.
À la deuxième question, c'est-à-dire quand il parlait de l'auto-emploi. Je suis tout à fait d'accord avec l'invité. Le bien emploi, l'auto-emploi, c'est bien. Mais il se pose un problème de moyens. Hein. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes dans des familles vraiment pauvres. Et on te fait quelque chose, par exemple, vous avez terminé l'université et puis on te donne quelque chose, par exemple, 200 000 ou 400 dollars. On vous dit de commencer avec ça. Or, on vous dit, qui ne risque rien n'a rien. Alors, c'est comme ça.
D'accord. Troisième question, Déo Gracias.
Oui, oui. Troisième question, c'est quand il me parlait dans l'éducation, il y a un problème d'éducation. Qu'est-ce que lui veut nous proposer? Quand nous terminons l'université, il fallait que l'université nous accompagne la pratique ou comment. Parce qu'à l'université, on apprend la théorie, bien sûr, mais la pratique, c'est ailleurs qu'il faut aller.
Maintenant. D'accord. Merci. Merci, Gaylord. On va passer merci Déo Gracias. On va passer rapidement à Gaylord qui attend aussi. Bonjour, Gaylord. Quelle est votre question rapidement?
Merci, jeudi. Merci aussi à l'invité du jour. J'avais quelques petites interventions. Premièrement, le problème du chômage en masse touche plusieurs facteurs de la société. Je voulais insister sur les problèmes de matricule. Nous avons dans ces pays, d'après certaines informations, nous savons dans ces pays qu'il y a un numéro matricule pour ceux qui travaillent pour l'État. Mais il y a des véritables travailleurs qui ont peut-être 5 ou 6 ans dans la fonction publique qui n'ont jamais eu de numéro matricule et ceux qui ne travaillent pas qui en ont ou parce qu'ils coopèrent avec certaines autorités et ainsi de suite. Alors, je pose à l'invité du jour pour qu'il nous dise comment est-ce qu'on peut éradiquer cette situation pour permettre quand même à ceux qui travaillent d'être reconnus par l'État congolais parce que c'est assez peur et beaucoup de gens ne veulent pas aussi travailler pour la fonction publique à cause de ça. Et deuxièmement, je voulais demander à propos des entreprises. Nous avons des entreprises, bien sûr, avec des investisseurs étrangers qui viennent au pays et qui n'emploient pas beaucoup de gens. Nous avons par exemple la forêt. Il y a des entreprises d'exploitation forestière qui sont là, qui emploient peu de gens et qui ne recourent pas tellement à la main d'œuvre interne. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que notre État peut faire pour, en fait, parce que c'est une production. Notre bois, il est exploité sans que les Congolais ne soient vraiment employés à cette exploitation. L'État congolais peut faire quoi en cette situation pour pousser les entreprises, surtout les investisseurs étrangers, à employer la main d'œuvre interne.
D'accord. Merci, Guélor. Merci, Guélor. Ingénieur Anania, vous êtes aussi à Kinshasa. Bonjour. Rapidement, quelle est votre question?
Oui. Bonjour, Radio Capi. Bonjour à l'invité. J'ai trois petites préoccupations.
Monsieur, toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Vous avez tous beaucoup de questions. Alors, allez-y rapidement, ingénieur.
Oui. La première, je voudrais savoir, quelqu'un qui termine l'université chez nous, ici au pays, même s'il a la carte d'ONEM, même si vous faites l'INPP, vous avez toutes les formations, mais avant qu'on puisse vous engager, on vous exige une expérience professionnelle d'une année, de 2 ans, de 5 ans. Alors, je ne sais pas ce que l'invité peut nous dire par rapport à cette pratique. Ça, c'est la première préoccupation. La seconde préoccupation, c'est par rapport au programme d'études. Quand vous prenez notre programme d'études d'un national qui est universitaire, c'est presque celui que nous avons copié de Belgique. Alors, je ne sais pas si l'invité peut nous dire s'il y a une petite machine made in Belgique. Ne peut-il pas, à l'heure actuelle, nous désolidariser de ces programmes comparativement à d'autres programmes universitaires qui sont plus professionnels par rapport à notre programme? Et puis, la troisième et la dernière préoccupation, qu'est-ce que l'invité peut nous dire, je termine rapidement, qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à ces expatriés qui viennent exploiter illicitement nos Congolais, des Chinois, des Indiens qui payent des Congolais 50 francs dans des magasins ça et là, des entreprises de construction ici, pour le mal les bons scellés, où on paye des journaliers éternels, 4 000 qu'on ne sait pas engager. Alors qu'est-ce que l'invité peut nous dire par rapport à toutes ces pratiques?
Merci, ingénieur Anania. Yves Daniel Gavane.
Oui, je commence par Guélor qui dit qu'est-ce que l'État doit faire. Pour être franc, ce que l'État doit faire de manière rapide, c'est d'arrêter l'importation. Le jour où l'État va se décider d'arrêter l'importation de biens de consommation de masse, les poissons, les riz et autres, qu'on va réinvestir localement, on va créer des emplois et on va redonner aux Congolais le travail et ça va donner encore l'envie d'être congolais. Aujourd'hui, avec quand vous voyez des véloteries, tout le monde veut fuir le pays. C'est parce que on a un sentiment que rien ne se fait au niveau du pays. Donc, si l'État commence d'abord par prendre la mesure d'arrêter les importations et de réinvestir dans le pays, je crois qu'on va
arrêter,
on va créer des
réduire,
emplois.
Parce que si on arrête tout de suite,
quand on parle de l'arrêt, on doit arrêter, mais en mettant en place le mécanisme. En fait.
Voilà, progressivement.
Voilà, avec le moratoire, mais on arrête. On dit à partir d'aujourd'hui, nous arrêtons. Nous prenons un temps pour donner aux uns aux autres de réinvestir localement. Donc ça ne va pas se faire de manière brutale. En ce qui concerne l'éducation, moi je pense que aujourd'hui le système éducatif en soi ne doit pas être un passage où on part juste s'accorder des diplômes, mais ça doit aider l'homme à se transformer mentalement et à être utile à sa société, c'est-à-dire on prend des notions nécessaires pour venir le mettre en pratique en travaillant. Si les notions que nous avons à l'école ne nous aident pas à trouver du travail, je trouve que c'est un système
parce
qui ne sert à rien.
Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on apprend comment rédiger un CV, lettre de motivation, tout ça, on n'apprend pas à l'école.
On n'apprend pas, et heureusement pour le jeune Congolais, j'ai écrit un livre là-dessus, Passeport à l'emploi, qui est vendu à l'université Bell Campus. Donc, ils peuvent se procurer de ces livres d'une centaine de pages qui donnent des techniques et des astuces en ce qui concerne le comment créer un capital d'employabilité, CV, lettre de motivation et tout cela. Et je vais terminer par dire que aujourd'hui, parce qu'il y a eu la question de l'ONEM qui est revenue, nous avons besoin de mettre en place une passerelle. L'ONEM doit être une passerelle de communication, d'échange entre le milieu universitaire et le milieu de l'emploi, pour essayer de concilier des parts et d'autres. Au travail, quelles sont de connaissances que vous avez besoin aujourd'hui pour aider l'université à arriver à obtenir de meilleures réformes nécessaires et aussi à mettre en place de vrais programmes d'intégration professionnelle à la fin de l'université. Il y a un programme qu'ils ont eu le financement des banques mondiales de 10 000 dollars, qu'ils appellent le programme PED, mais qui à mon humble avis, qui doit continuer au fait, parce que ça ne doit pas
faire les jeunes gens en stage.
En stage,
dans les différentes entreprises.
Mais il faut vraiment qu'on puisse creuser, aller plus loin. Parce que, comme a posé la question, après ces stages, ils reviennent encore à la maison. Est-ce que faudra-t-il s'arrêter à des stages ou des pensées à l'entrepreneuriat, à l'auto-emploi, à regrouper ces jeunes?
Mais à un moment, il y avait une idée pareille, que les jeunes se regroupent, qu'ils aient des idées, qu'ils se mettent ensemble, et puis l'État va financer.
Mais malheureusement, dans notre pays, nous n'avons que de bonnes intentions. Nous avons des programmes qui existent, mais qui refusent de travailler, comme je l'ai dit. Quand on dit que les Congolais sont exploités par des étrangers dans notre pays qui n'ont pas de contrat de travail, c'est vrai. Mais l'inspection du travail existe. Quel est son travail? Et ces jeunes, ces Congolais aussi qui souffrent, moi je pense que la misère des Congolais aujourd'hui doit parler. Les Congolais doivent avoir la bouche pour dénoncer. Mais comment on vous fait souffrir dans votre propre pays, vous ne dénoncez pas. Donc c'est là où j'appelle à la mobilisation aujourd'hui autour de l'article 36 de la Constitution et surtout à une conscience collective. Parce que si aujourd'hui les Congolais continuent à fermer sa bouche alors qu'on est en train de le malmener dans son propre pays, je pense que c'est vraiment quelque chose d'inacceptable. Donc aujourd'hui, je pense que pour résoudre la question du chômage de masse,
il faut d'abord la prise de conscience.
Nous devons demander à notre gouvernement qui doit pas seulement avoir des bonnes intentions, mais à nous faire de ramener des jeunes. Au lieu seulement de dire aux jeunes, non, calmez les jeunes, non, c'est votre pays, vous êtes l'avenir. Mais pour qu'on soit avenir de demain, on doit d'abord travailler aujourd'hui. Nous demandons à l'État, la meilleure façon de responsabiliser les jeunes, c'est de leur donner du travail. Et donner le travail aux jeunes veut dire quoi? C'est créer des conditions favorables où les jeunes vont trouver du travail, où eux-mêmes peuvent aussi créer leurs propres emplois. Donc voilà ce que nous demandons au gouvernement.
Yves Daniel Ngavane, comment entrer en contact avec vous pour continuer les discussions après cette émission?
Effectivement, surtout à nos amis de Bandundouville qui peuvent déjà nous appeler pour avoir plus d'informations sur les forums qui se tient au mois de mars. Ils peuvent nous appeler au 081 166 21 26, 081 166 21 26.
Yves Daniel Ngavane, expert en ressources humaines, merci et bonne journée.
C'est moi qui vous remercie.